10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent et en direct sur Beurre FM, le samedi, 10h, 11h. Bonjour et bienvenue, bonjour Imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
À qui vous faites coucou ?
À mon fils qui est dans les couloirs.
À qui regarde ?
Oui, maintenant il est reparti, ça va.
Il est reparti, bon. C'était... bon, vous savez, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM le week-end. Vous pourrez intervenir dans la troisième partie de cette émission en direct au 01 53 48 3000. Mais c'est de tradition, Imam Abdelali, vous nous proposez un verbe coranique pour débuter l'émission. Quel est le verbe aujourd'hui ?
Alors, le verbe que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est le verbe « aha ». Aha. Donc j'ai bien précisé dans le titre hein, qu'il faut bien prolonger les deux A. On dit aha, donc aha.
Il y en a trois en plus des A.
Non, mais il peut même en rajouter un après le ha. C'est-à-dire le ha, on peut rajouter deux A si tu veux. Ça fait quatre si tu veux. Donc ça fait aha ou plus, en prolongement, qui signifie tout simplement fraterniser. Hein. Tu sais, quand à chaque fois je t'envoie un message, je te dis Khoya Philippe, ben ça vient du même mot. Et là, c'est le verbe. Le verbe fraterniser, c'est tout simplement manifester un comportement digne d'un frère. Le radical, donc le nom approprié, c'est At-Ahi ou bien Al-Ikha. On dit Aha Ikha'an ou Aha Bit-Ahi. Donc, c'est une bien sûr quelque chose de primordial en islam que de contribuer à cette valeur qu'on appelle al-ikha.
Bien. Quelle est sa définition étymologique, Imam Abdelali ?
Alors, quand on cherche dans le dictionnaire, quand on dit akha inda fulan, ça veut dire tout simplement accomplir un bien pour autrui. Il a fait quelque chose pour l'autre chez lui ou en sa faveur. C'est au-delà de la question de fraterniser, c'est d'abord accomplir quelque chose de bien pour autrui. Ça, c'est la définition étymologique. Bien sûr, le Coran évoque à maintes reprises cette expression et encourage la notion de fraterniser les musulmans les uns les autres. C'est quelque chose d'essentiel. La relation qu'il y a entre les communistes, c'est par exemple d'être des camarades, entre des employés d'une entreprise, c'est d'être des collègues, des élèves ont des copains à l'école. Ben, l'expression, quand on parle des musulmans les uns les autres, c'est être des frères. Donc c'est vrai, ça a une connotation parfois qui est aujourd'hui vulgarisé et qui par des fois est mal utilisé, mais elle reste très forte selon les préceptes de l'islam de considérer que tous les gens que l'on apprécie autour de soi, on peut les considérer comme des frères à partir du moment où on à travers ce mot, en disant mon frère, c'est un message où on est en train de lui dire que je ne serai pour toi qu'une source, un source de bien comme je le ferai pour mon propre frère qui est celui qui a été issu d'une même mère et d'un même père.
Donc on peut être frère en religion.
Tout à fait. Le Coran est clair là-dessus. Sourate Ali Imran, par exemple, la sourate 3 du Coran, verset 103, Dieu dit dans le Coran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et attachez-vous à la corde de Dieu tous ensemble et ne vous divisez pas et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous alors que vous étiez des ennemis et Dieu a raccordé ou a réconcilié vos cœurs et vous êtes devenus de ce fait des frères. Donc Dieu reconnaît le lien de fraternité dans la religion, voire même dans l'humanité. Nous sommes d'abord des frères en Dieu et nous sommes des frères en humanité. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de musulmans, on ne peut être frère que de son frère croyant. C'est complètement absurde de limiter et de réduire cette notion de fraternité. Moi, je considère que tous les êtres humains sont mes frères. Ça veut dire que, de ce fait, je ne souhaite et je ne contribue qu'à au bien-être et je ne souhaite que le bien pour tous mes frères en humanité. Et cela ne se réduit pas à la communauté des croyants que l'on appelle la Oumma et qu'à travers cela, malheureusement, beaucoup de nos co-religionnaires veulent communautariser la notion de fraternité, alors que la fraternité est une notion universelle, est une valeur universelle que l'on doit propager et qui doit dépasser les clivages religieux et même des frontières nationales.
C'est une de devise de la République d'ailleurs. La
tout à fait, liberté, hein. Égalité, fraternité. On a même un grand penseur, un philosophe contemporain aujourd'hui, et qui fait un gros travail pour essayer de revivifier cette valeur, qui s'appelle Abdennour Bidar, qui a écrit un livre sur la fraternité et qui fait la promotion de la fraternité, de ce troisième pilier de ce triptyque des valeurs républicaines, et que l'on a souvent négligé, et qui est souvent peut-être la tare de ce qui ne fonctionne pas en France aujourd'hui. Et pourquoi on n'arrive pas à faire fonctionner la République, et qu'il y a aujourd'hui énormément de crispation au sein des citoyens, c'est parce que on ne fait pas suffisamment vivre cette troisième valeur qui est la fraternité. Je citerai que des exemples qu'il y a aujourd'hui autour du comportement de Charlie Hebdo, par exemple. Charlie Hebdo dit que moi, je me comporte avec liberté, d'accord, et aussi avec égalité des rapports que j'ai avec autrui. Mais est-ce que vous vous comportez, monsieur Charlie Hebdo, avec fraternité? Moi, je pense que vous êtes loin de la fraternité. Parce que la fraternité, c'est d'abord respecter son prochain et ne pas être dans une logique de vexation, de crispation, de stress. Aujourd'hui, en utilisant la loi, Charlie Hebdo, je parle de cet exemple-là, a une attitude totalement immorale et irresponsable. Et c'est ça qui me dégoûte. Certes, effectivement, nous nous battons pour que Charlie Hebdo garde et doit garder sa liberté d'expression. Ça, là-dessus, nous sommes les premiers garants, les premiers gardiens, pour que tout un chacun, même une fois, on m'a reproché pourquoi tu as dit que tu serais le taille-crayon de Charlie Hebdo, etc. Il ne s'agit pas d'être le taille-crayon pour donner la parole à Charlie Hebdo pour insulter l'islam et les musulmans ou le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit simplement de préserver une valeur essentielle que même l'islam, dès le début, dès le balbutiement de sa révélation, a défendu, c'est la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de dire ce qu'on a envie de dire. Malheureusement, Charlie Hebdo l'a utilisé à mauvais escient, de manière immorale. Et c'est à mon avis là que le bât blesse, et je terminerai cette parenthèse par ces mots-là, c'est que tout simplement, il faut tout simplement remettre en place, en valeur, cette fraternité qui permet de remettre en place ce respect, cette courtoisie, cette noblesse de caractère que l'on se doit les uns les autres.
Alors quels sont et quelle est la signification de la fraternité selon les préceptes de l'islam, Imam Abdelali ?
Alors, la signification de la fraternité, il y en a plusieurs. Vous avez d'abord, quand on parle de fraternité et de relation de considérer comme son prochain, comme étant son frère ou sa sœur, eh bien c'est d'abord un sentiment fort. C'est un sentiment d'abord. C'est d'avoir un sentiment d'amour. Je t'aime en Dieu. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu vas me donner, pas pour ce que je vais pouvoir obtenir de toi. Donc il est fort, il est sincère, mais il est surtout désintéressé. Le prophète alayhi salat wa salam évoque le délice de la foi. Il dit thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Celui qui a trois choses goûtera au délice de la foi. Et il dit dans la deuxième catégorie, il dit celui qui aimera son prochain mais qui ne l'aimera que pour Dieu. C'est-à-dire qu'il ne l'aimera que seulement pour plaire à Dieu, et donc il sera totalement désintéressé de ce que pourrait lui apporter la personne à qui il a des sentiments. C'est, certes, on a toujours tendance à aimer celui qui nous fait du bien, mais l'effort, c'est aussi d'aimer même celui à qui vous faites du bien. Quand vous avez un pauvre, un orphelin, un nécessiteux, une personne fragile, une personne faible, et que vous lui manifestez de l'amour, et que lui ne vous le rend pas, eh bien c'est ça la notion de fraternité et l'effort de fraternité que Dieu attend de chaque croyant dans l'effort du rapport qu'il va avoir et qui va permettre d'harmoniser les relations entre les hommes pour que la paix règne et se répande sur la terre. Autre chose, un autre exemple d'un hadith du prophète qui illustre parfaitement l'amour désintéressé. On raconte, selon un hadith rapporté par Muslim, qu'un homme est venu rendre visite à son frère. Dieu a donc sur le chemin envoyé un ange. Il lui a dit « Où vas-tu ? » Il lui a dit « Je vais rendre visite à mon frère dans tel village. » Il lui a dit « Mais est-ce que tu vas le voir pour essayer d'obtenir quelque chose de sa part ?» Il lui a dit « Non, non, parce que tout simplement je vais lui rendre visite parce que je l'aime en Dieu. » Là, il l'a anni uhibbuhu fillah, dira cet homme à l'ange, alors qu'il ne sait pas qu'il s'agit d'un ange. Et là, l'ange se montre vraiment dans sa forme angélique et lui dit « قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكِ » Je suis l'envoyé de Dieu vers toi et pour te dire « أَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ مَا أَحْبَبْتَهُ » Pour te dire que Allah t'aime de la même manière que tu as aimé cet homme de manière totalement désintéressée. Voilà, c'est très important que cet amour se propage de manière désintéressée. Deuxième signification de la fraternité, c'est que la fraternité se base sur des relations respectueuses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être irrespectueux et irresponsable. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'exemple de Charlie. Et que donc, c'est quand on est frère avec son frère ou sa sœur, c'est ne pas lui faire du tort. Le prophète Azzaslam le dit clairement, selon un hadith rapporté par Abu Huraira, il dit « Al-muslimu akhul muslim ». Le musulman est le frère de son frère, du musulman. Il dit « La yadhlimuhu », il ne commet pas d'injustice à son égard. « Wa la yakhdhuluhu », et il ne le... « yakhdhuluhu », ça veut dire « ne déçoit pas », il ne le déçoit pas. « Wa la yahqiruhu », il ne l'humilie pas, ne le méprise pas. « At-taqwa hahuna », et Dieu et le prophète ensuite mis son doigt en direction de sa poitrine et il dit « la piété est là ». وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ À trois reprises, il a dit, c'est là la piété, en parlant du rapport que l'homme a avec son frère. بِحَسْبِ مْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ Cela suffit de méchanceté et de mal que quelqu'un d'entre vous méprise son frère. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٍ Tout musulman a pour musulman une sacralité, son sang, son argent et sa dignité. Hadith rapporté par Ahmed et Muslim et Al-Bayhaqi. Donc ce hadith-là est fort, dans le sens où c'est vrai qu'à l'époque du prophète, il n'y avait que des musulmans qui se côtoyaient les uns les autres, donc ça ne se limitait qu'aux relations des musulmans entre eux. Mais certes, si le prophète vivait aujourd'hui dans une minorité où il y a tout un brassage de convictions, de croyances, il n'en dirait pas autant des rapports que l'on doit avoir avec tous les êtres humains, tous les citoyens, tous nos concitoyens avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous construisons et nous sommes contributeurs du développement et de la société dans laquelle nous vivons. Troisième sensation, ou plutôt signification, le croyant ou le musulman doit être protecteur. Mmh. Il doit contribuer à aider son frère, à soutenir son frère dans l'adversité et dans le malheur et dans le mal. Même en France, aujourd'hui, quand on parle de fraternité, des lois ont été votées pour ça. Par exemple, non-assistance à personne en danger, Philippe, c'est une infraction qui est susceptible d'être condamnée par la loi. Vous voyez une personne en train de périr dans la rue ou de quelque part, un endroit, et vous ne lui portez pas assistance, si cela est prouvé par des faits et des témoignages, vous êtes susceptible d'être condamné par les tribunaux. Le prophète Aslam dit les croyants sont les uns vis-à-vis des autres dans leur rapport de miséricorde et de soutien comme un même corps. Si un membre de ce corps se plaint, c'est-à-dire si, par exemple, je souffre de mon bras, ou je souffre de mon oreille, ou je souffre de mon pied, de mon doigt de pied, je ne dors pas, je veille et je souffre. C'est tout mon corps qui est en sueur, qui souffre le martyr. Et ça n'est pas la partie du pied seulement qui pleure, et le reste du corps qui reste indifférent à ce qui se passe. C'est vraiment une métaphore, une parabole magnifique que nous fait le prophète Islam quand il parle des êtres humains. Il dit que tous les êtres humains devraient être comme un même corps, quand une partie d'entre elles souffre, c'est tout le reste qui doit souffrir avec.
Et puis, une des dernières dimensions de la fraternité en islam...
C'est surtout lui souhaiter le bien, c'est-à-dire qu'on doit souhaiter le bien. Aujourd'hui, malheureusement, quand je vois qu'il y a des gens qui portent dans le cœur la haine et la jalousie de voir leurs frères, de voir d'autres personnes jouir d'un bonheur, d'un plaisir, d'être heureux, d'être, par exemple, d'avoir été comblé de bienfaits par Allah Azza wa Jal, par exemple, d'avoir une belle femme, d'avoir des beaux enfants, d'avoir des richesses, d'avoir réussi, et que l'on voit des gens de confession musulmane y compris, ou d'autres, eh bien, être envieux et leur souhaiter le mal et souhaiter qu'il leur arrive tout le mal possible. Même quand il s'agit d'invocation, le Coran nous apprend et nous éduque à faire des invocations pour nos frères.
On ne peut pas invoquer contre.
pour. Si, si, ça s'appellera une imprécation à ce moment-là.
D'accord.
Si, ça existe. Des gens qui maudissent, par exemple, qui disent Allah il anak, que Dieu te maudisse, par exemple. C'est une invocation contre. Ça existe. Ça s'appelle une imprécation. Mm-hmm. On ne dira pas une invocation, mais on dira une imprécation. C'est de la'na, c'est-à-dire le fait de maudire ou de souhaiter le mal à autrui. Parmi les invocations qui contribuent à promouvoir la fraternité, Dieu dans le Coran dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ et ceux qui viendront après diront يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ hein, Dieu pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés. Donc c'est là qui est fort le lien de fraternité, même intergénération, même inter même entre ceux qui les vivants et les morts. C'est toute l'humanité qui s'aime à travers les siècles, à travers le temps et l'espace.
Bien, Imam Abdelali, vous allez nous présenter un personnage tout à l'heure. Alors, c'est un compagnon du prophète, mais qui est très peu connu.
En effet, Inch'Allah, je dis rien. On laisse
En tout cas,
il avait un surnom.
On ne dit rien, on laisse le teasing.
D'accord.
On se retrouve dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. L'islam au présent sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun. Et chaque semaine, imam Abdelali, vous nous présentez un personnage connu ou pas dont vous nous racontez l'histoire. Et là, cette semaine, vous vous êtes tracassé les méninges pour nous présenter un compagnon du prophète qui est très peu connu. Pourquoi ?
Totalement inconnu du public, hein, mais qui en même temps n'a pas beaucoup de manaqib, c'est-à-dire n'a pas beaucoup de faits historiques qui parlent de lui. Mais le peu dont on parle quand on parle de lui, eh bien, on découvre un personnage d'une très très grande qualité et dont nous allons justement découvrir maintenant. Alors son nom c'est Ulbatou ibn Zayd. Alors c'est drôle parce que le mot Ulba ça veut dire boîte. Et son prénom, ça veut dire boîte. Ibn Zayd, donc fils de Zayd. Il était surnommé comme étant celui qui a fait don de son honneur. Alladhi anfaqa irdahu lillahi wa fi sabilillah. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement un moment où est-ce que le prophète entend parler que les Romains, ou plutôt les Byzantins, avec les Sassanides, veulent envahir l'Arabie et veulent asservir le peuple et la communauté des croyants dirigée par le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à la fin de la vie du prophète, notamment la 9e année, un an avant sa mort. Et le prophète demande à ses compagnons d'aller chercher chez eux le maximum de ce qu'ils peuvent offrir en don pour Dieu. Pourquoi ? Pour pouvoir organiser une expédition de manière à dissuader cette armée qui vient les envahir, de replier chemin et de ne pas tenter d'envahir les musulmans et d'envahir la communauté, notamment des Arabes. C'est-à-dire, puisque nous sommes, eux arrivent du nord vers la péninsule arabique, pour ceux qui ont un petit peu la géographie en tête. Et donc, tout le monde va partir et va aller chez soi pour aller récupérer ce qu'il a. Alors, par exemple, il va avoir Omar Khattab qui va récupérer la moitié de ce qu'il possède et il va le ramener. Donc ça va faire un gros tas de choses, d'argent, de biens, de bijoux, de nourriture, une quantité assez importante. Abou Bakr al-Siddiq, lui, va ramener une quantité aussi importante, mais moins importante, même je dirais même beaucoup moins importante que celle de Omar Khattab. Et là, Omar Khattab, il va regarder Abou Bakr, il va dire « Ah, pour une fois, enfin, je vais pouvoir te vaincre. » Et le prophète interroge... Sayyidina Abu Bakr, Omar lui dit, Ya Omar, c'est bien ce que tu nous as amené, mais qu'as-tu laissé à ta famille derrière toi? Et là, Sayyidina Omar lui dit, écoute, Ya Rasulallah, je leur ai laissé la moitié de tous mes biens. Donc là, ce que tu vois, c'est la moitié, et l'autre moitié, elle est à la maison. Et là, le prophète dit, que Dieu bénisse cette autre moitié que tu as laissée à la maison. Allah ybarik lak fi rizqik, Ya Omar, et il lui fait un dua d'invocation, de bénédiction. Et là, il se dirige vers Abu Bakr et dit, Abu Bakr, anta madha tarakta li ahlika ya Abu Bakr? Qu'as-tu laissé à ta famille, Abu Bakr, derrière toi? Et là, Abu Bakr, avec toute sa grandeur et sa force de caractère et de foi, dit, Ya Rasulallah, laqad taraktum lahum Allah wa Rasulah. Je ne leur ai laissé que Dieu et son prophète. C'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire que je ne leur ai laissé rien. tout ce que j'ai, il est là devant toi, ya Rasulallah. Et là, Omar al-Khattab a compris qu'il était loin derrière le niveau de ce qu'était Abu Bakr al-Siddiq en matière de preuve de sa foi et de son niveau et de qualité en tant que personnage prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour la cause du prophète et de ce message que Allah Azza wa Jal a envoyé à son messager. Et donc, d'autres compagnons, bien sûr, vont faire des dons. Par exemple, Uthman ibn Affan, qui était un homme très très riche, qui était un commerçant, va apporter 3000 chameaux avec tout ce qu'il y a dessus de nécessaire, c'est-à-dire tout le muhammala, c'est-à-dire avec tout ce qu'un cavalier, un guerrier a besoin, des armes, de la nourriture, de l'eau, etc. Tout ce qu'on appelle fourni, 3000 chameaux fournis. Sauf que l'armée, c'est plus de 40 000 hommes, Philippe. Donc même les 3000 chameaux de Uthman et même tout ce que pourra donner Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali et Zubair et Talha et tous les compagnons ne suffira pas. Et un compagnon qui était parmi eux, qui s'appelle Ulba ibn Zayd, justement va
le fameux
Ulba ibn Zayd, va rentrer chez lui, il va chercher dans tous les recoins de sa maison, et c'est une maison totalement vide, imagine une pièce, voilà, c'est ça où il habite, il y a rien du tout dedans, c'est quatre murs, il y a rien du tout, il est lui et rien d'autre avec. Par contre, il va se mettre à prier, et après avoir prié les prières de la nuit, les prières de surérogatoire dans la nuit, il va lever les mains au ciel, dit « Ya Rabbi, je n'ai rien, tu le sais très bien que je n'ai rien, Ya Rabbi, puisque je n'ai rien que mon honneur, je t'offre en don mon honneur. » C'est-à-dire que si quelqu'un m'a insulté, si quelqu'un m'a manqué de respect, si quelqu'un a mis en cause mon honneur, eh bien, je t'en fais don, ya Rabbi, je lui pardonne, eh bien, ce soir-là, puisque je n'ai rien d'autre à donner à Dieu et à son prophète, alors que Dieu et son prophète nous ont demandé cette nuit de faire don de ce qu'ils peuvent donner. Et là, le lendemain, bien sûr, quand le prophète reçoit l'offrande de Abu Bakr et de Omar et de Uthman et de tous les sahabas, le prophète va totalement être désintéressé de tous ces cadeaux, de tous ces dons, de tous ces sadaqat, et il va interpeller parmi les compagnons qui sont là, qui parmi vous a fait don de son honneur? Man minkum tasaddaqa bi'irdi. Et là, l'homme qui s'appelle Ulba ibn Zayd va se le dire, ah, Rasulallah, c'est moi qui ai fait don. Et il a dit, Allah Azza wa Jal m'a fait part que tu as fait don. C'est-à-dire que là, c'est un miracle, puisque qui savait qu'il était en train de invoquer son Seigneur en lui disant, en le prenant à témoin qu'il faisait don de son honneur, il dira, le prophète, à cet homme, soyez témoins, tous les croyants, qu'Allah, au-dessus des sept cieux, a accepté son offrande et a accepté le don de sa dignité que Ulba ibn Zayd a fait à Allah Azza wa Jal et à son prophète. Regarde, il a délaissé tous les cadeaux, tous les offrandes, tous les dons, et il a pris à témoin tous les compagnons pour leur dire que cet homme qui n'avait rien du tout, qui était totalement pauvre, eh bien, sa sadaqa avait été acceptée par Dieu avant même que Dieu accepte tous les cadeaux qu'avaient fait Uthman, Omar et Ali. Dernière chose, je voulais dire, c'est pourquoi Allah a dit qu'il ferait rentrer au paradis les pauvres, c'est pas pour rien. Une demi-journée avant les autres, c'est-à-dire 500 ans, selon le temps de l'au-delà, 500 ans avant les riches, eh bien, c'est pas pour rien, c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ont ce privilège.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent, sur Beurre FM.
On médite hein, sur ce compagnon Imam Abdel Ali et sur ce don qu'il a fait finalement.
Ouais, il a fait don de sa dignité. Il a dit que si quelqu'un m'a fait du tort, si quelqu'un a envie de m'a humilié ou quelqu'un qui m'a insulté ou quelqu'un quoi que ce soit, eh bien je prends à témoin Allah Azza wa Jal que je lui pardonne et que je lui fais don de ma dignité parce que je n'ai rien d'autre à offrir. Et ce que je voulais dire à la fin qu'on a du mal à comprendre, c'est que quand on entend dans un hadith le prophète Hassan qui dit que les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Le prophète dit un demi-jour, des nusf yaoum. Un demi-jour avant les riches. Mais le prophète dit que inna yawman 'indallahi ka alf sanatin mimma ta'uddun, et que le jour de la résurrection, une journée durera 1000 ans. Donc la moitié de 1000 ans, si c'est une demi-journée, eh bien c'est bien que les pauvres entreront au paradis avant les riches de 500 ans. C'est tout simplement parce que il y a parmi des pauvres des gens qui sont d'une immense un immense altruisme. Et faut le savoir qu'en France et ailleurs, ceux qui construisent l'islam, ceux qui construisent les mosquées, ceux qui construisent, qui sont contributeurs à combattre la misère, ce sont d'abord les miséreux, ce sont d'abord les nécessiteux, ce sont d'abord les pauvres, et que les riches souvent sont eux les plus désintéressés, les plus je m'en foutistes de ce qui peut se passer autour d'eux, comme misère et comme malheur. Donc c'est pour cela.
Hein, on s'en parlait que c'est plus facile de donner quand on est riche.
Et alors qu'ils ne le font pas. Hein, le prophète dit dans le hadith, rubba dirham in ghalaba alfa dinar. Le prophète a dit, il y a des fois un dirham que tu vas donner et qui sera mieux récompensé que 1000 dinars. Alors là, je parle de dirham argent, mieux que 1000 dinars. Dinar, donc c'était la monnaie en or, hein, qui est une monnaie, fabriquée en or et qui vaut 100 fois la valeur du dirham. C'est un petit peu comme on dit, le dirham c'est le centime et le dinar c'est l'euro. Donc tout simplement parce que une personne quand elle va faire un don comme a fait Abou Bakr Sadiq, il a donné tout ce qu'il avait, il donne tout ce qu'il a, et que ce qu'il a donné est inférieur à ce qu'une autre personne va donner, mais que relativement à ce qu'il possède, c'est une infime partie de ce qu'il possède, forcément la récompense de celui qui a fait ce plus gros sacrifice par rapport à ce qu'il possédait, eh bien, est mieux récompensée que celui qui a fait don d'une somme plus importante, mais qui est relativement beaucoup moins importante par rapport à ce qu'il possède. Bon, j'espère qu'on m'a compris. En gros, que tout est relatif dans la vie, et que finalement...
Tout est relatif, il faut toujours relativiser.
Si je donne 100% de ce que j'ai, en gros, c'est mieux que de donner 10% de ce que j'ai, mais même si ces 10% sont supérieurs aux 100% de l'autre personne, ce qui est important, c'est la notion du sacrifice et de l'effort accompli par la personne qui le fait, quand elle sait que derrière, il ne lui restera plus rien. C'est bien sûr plus apprécié de Dieu, et parce que cette personne, Dieu se dit, cette personne, si elle accepte de donner tout ce qu'elle a, c'est que vraiment, elle s'en est remis à moi. Elle pense que je suis moi le seul Razzaq, qui est celui qui peut donner les biens et enrichir, et lui permettre de finalement de subvenir à ses besoins malgré cette offrande, cet immense sacrifice qu'il a pu accomplir.
Alors vous pourrez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun dans un instant au standard de l'islam au présent. Je vous rappelle le numéro, c'est le 01 53 48 3000, hein, sur tous les sujets, 01 53 48 3000. Et puis on a une question d'auditrice, imam Abdelali, qui est arrivée, une question d'auditrice qui concerne son couple. Tout et donc voilà, c'est une femme qui a été répudiée et qui maintenant se pose une question sur son statut. 01 53 48 3000, si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun.
L'islam au présent revient dans un instant. Revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent avec l'imam Abdelali Mamoun, et chaque semaine, imam Abdelali, vous nous présentez un personnage connu ou pas dont vous nous racontez l'histoire. Et là, cette semaine, vous vous êtes tracassé les méninges pour nous présenter un compagnon du prophète qui est très peu connu. Pourquoi ?
Totalement inconnu, hein, totalement inconnu du public, hein, mais qui en même temps n'a pas beaucoup de manaqib, c'est-à-dire n'a pas beaucoup de faits historiques qui parlent de lui. Mais le peu dont on parle, quand on parle de lui, eh bien, on découvre un personnage d'une très très grande qualité, et dont nous allons justement découvrir maintenant. Alors son nom, c'est Ulbat ibn Zayd. Alors c'est drôle parce que le mot Ulba, ça veut dire boîte, et son prénom, ça veut dire boîte. Ibn Zayd, donc fils de Zayd, il était surnommé comme étant celui qui a fait don de son honneur. Alladhi anfaqa irdahu lillahi wa fi sabilillah. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement un moment où est-ce que le prophète entend parler que les Romains, ou plutôt les Byzantins, avec les Sassanides, veulent envahir l'Arabie et veulent asservir le peuple et la communauté des croyants dirigée par le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à la fin de la vie du prophète, notamment la 9e année, un an avant sa mort. Et le prophète demande à ses compagnons d'aller chercher chez eux le maximum de ce qu'ils peuvent offrir en don pour Dieu. Pourquoi ? Pour pouvoir organiser une expédition de manière à dissuader cette armée qui vient les envahir, de replier chemin et de ne pas tenter d'envahir les musulmans et d'envahir la communauté, notamment des Arabes. C'est-à-dire, puisque nous sommes, eux arrivent du nord vers la péninsule arabique, pour ceux qui ont un petit peu la géographie en tête. Et donc, tout le monde va partir et va aller chez soi pour aller récupérer ce qu'il a. Alors par exemple, il va avoir Omar Khattab qui va récupérer la moitié de ce qu'il possède et il va le ramener. Donc ça va faire un gros tas de choses, d'argent, de biens, de bijoux, de nourriture, de bref, une quantité assez importante. Abou Bakr Sadiq, lui, va ramener une quantité aussi importante, mais moins importante, même je dirais même beaucoup moins importante que celle de Omar Khattab. Et là, Omar Khattab, il va regarder Abou Bakr, il a dit, ah, pour une fois enfin, je vais pouvoir te vaincre. Et le prophète interroge Sayyidina Abou Bakr. Omar lui dit, ya Omar, c'est bien ce que tu nous as amené, mais qu'as-tu laissé à ta famille derrière toi? Et là, Sayyidina Omar lui a dit, bah écoute, ya Rasulallah, je leur ai laissé la moitié de tous mes biens. Donc là, ce que tu vois, c'est la moitié, et l'autre moitié, elle est à la maison. Et là, le prophète dit, que Dieu bénisse cette autre moitié que tu as laissée à la maison. Allah ybarak lak fi rizqik ya Omar. Et il lui fait un dua d'invocation, de bénédiction. Et là, il se dirige vers Abu Bakr, il dit, ya Abu Bakr, wa anta madha tarakta li ahlika ya Abu Bakr? Qu'as-tu laissé à ta famille, ya Abu Bakr, derrière toi? Et là, Abu Bakr, avec toute sa grandeur et sa force de caractère et de foi, dit, ya Rasulallah, laqad taraktum lahum Allah wa Rasulah. Je ne leur ai laissé que Dieu et son prophète. C'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire que je ne leur ai laissé rien. Tout ce que j'ai, il est là devant toi, ya Rasulallah. Et là, Omar al-Khattab a compris qu'il était loin derrière le niveau de ce qu'était Abu Bakr Siddiq en matière de preuve de sa foi et de son niveau et de qualité en tant que personnage prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour la cause du prophète et de ce message que Allah Azza wa Jal a envoyé à son messager. Et donc, d'autres compagnons, bien sûr, vont faire des dons. Par exemple, Uthman ibn Affan, qui était un homme très très riche, qui était un commerçant, va apporter 3000 chameaux avec tout ce qu'il y a dessus de nécessaire, c'est-à-dire tout le muhammala, c'est-à-dire avec tout ce qu'un cavalier, un guerrier a besoin, des armes, de la nourriture, de l'eau, etc. Tout ce qu'on appelle fourni, 3000 chameaux fournis. Sauf que l'armée, c'est plus de 40 000 hommes, Philippe. Donc même les 3000 chameaux de Uthman et même tout ce que pourra donner Abou Bakr, Omar, Uthman et Ali et Zubair et Talha et tous les compagnons ne suffira pas. Et un compagnon qui était parmi eux, qui s'appelle Ulba ibn Zayd, justement va...
Le fameux
Ulba ibn Zayd. Il va rentrer chez lui, il va chercher dans tous les recoins de sa maison. Et c'est une maison totalement vide, imagine une pièce, voilà, c'est ça où il habite. Il n'y a rien du tout dedans, c'est quatre murs, il n'y a rien du tout. Il est lui et rien d'autre avec. Par contre, il va se mettre à prier, et après avoir prié les prières de la nuit, les prières de surérogatoire dans la nuit, il va lever les mains au ciel, il dit, ya Rabbi, je n'ai rien, tu le sais très bien, que je n'ai rien, ya Rabbi, puisque je n'ai rien que mon honneur, je t'offre en don mon honneur. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a insulté, si quelqu'un m'a manqué de respect, si quelqu'un a mis en cause mon honneur, eh bien, je t'en fais don, ya Rabbi, je lui pardonne, eh bien, ce soir-là, puisque je n'ai rien d'autre à donner à Dieu et à son prophète, alors que Dieu et son prophète nous ont demandé cette nuit de faire don de ce qu'ils peuvent donner. Et là, le lendemain, bien sûr, quand le prophète reçoit l'offrande de Abou Bakr et de Omar et de Uthman et de tous les sahabas, hein, le prophète va totalement être désintéressé de tous ces cadeaux, de tous ces dons, de tous ces sadaqat, et il va interpeller parmi les compagnons qui sont là, qui parmi vous a fait don de son honneur? Man minkum tasaddaqa bi'irdi. Et là, l'homme qui s'appelle Ulba ibn Zayd va se dire, ya Rasulallah, c'est moi qui ai fait don. Et il a dit, Allah Azza wa Jal m'a fait part que tu as fait don. C'est-à-dire que là, c'est un miracle, puisque qui savait qu'il était en train de invoquer son Seigneur en lui disant, en le prenant à témoin qu'il faisait don de son honneur. Il dira, le prophète, à cet homme, soyez témoins, tous les croyants, qu'Allah, au-dessus des sept cieux, a accepté son offrande et a accepté le don de sa dignité que Ulba ibn Zayd a fait à Allah Azza wa Jalla et à son prophète. Regarde, il a délaissé tous les cadeaux, tous les offrandes, tous les dons, et il a pris à témoin tous les compagnons pour leur dire que cet homme qui n'avait rien du tout, qui était totalement pauvre, eh bien, sa sadaqa avait été acceptée par Dieu avant même que Dieu accepte tous les cadeaux qu'avaient fait Uthman, Omar et Ali. Dernière chose, je voulais dire, c'est pourquoi Allah a dit qu'il ferait rentrer au paradis les pauvres, c'est pas pour rien. Une demi-journée avant les autres, c'est-à-dire 500 ans, selon le temps de l'au-delà, 500 ans avant les riches, eh bien, c'est pas pour rien, c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils ont ce privilège.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent, sur Beurre FM.
On médite hein, sur ce compagnon, Imam Abdel Ali, et sur ce don qu'il a fait, finalement.
Ouais, il a fait don de sa dignité. Il a dit que si quelqu'un m'a fait du tort, si quelqu'un a envie de m'a humilié, ou quelqu'un qui m'a insulté, ou quelqu'un quoi que ce soit, eh bien, je prends à témoin Allah Azza wa Jal que je lui pardonne et que je lui fais don de ma dignité parce que je n'ai rien d'autre à offrir. Et ce que je voulais dire à la fin, qu'on a du mal à comprendre, c'est que quand on entend dans un hadith le prophète qui dit que les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Mmh. Le prophète dit un demi-jour. On dit nusf yaoum. Un demi-jour avant les riches. Mais le prophète dit que inna yawman 'indallahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun, et que le jour de la résurrection, une journée durera 1000 ans. Donc la moitié de 1000 ans, si c'est une demi-journée, eh bien c'est bien que les pauvres entreront au paradis avant les riches de 500 ans. C'est tout simplement parce que il y a parmi des pauvres des gens qui sont d'une immense immense altruisme. Et faut le savoir qu'en France et ailleurs, ceux qui construisent l'islam, ceux qui construisent les mosquées, ceux qui construisent, qui sont contributeurs à combattre la misère, ce sont d'abord les miséreux, ce sont d'abord les nécessiteux, ce sont d'abord les pauvres, et que les riches souvent sont eux les plus désintéressés, les plus je m'en foutistes de ce qui peut se passer autour d'eux comme misère et comme malheur. Donc c'est pour cela.
Hein, on s'en parlait que c'est plus facile de donner quand on est riche.
Et alors qu'ils ne le font pas. Hein, le prophète dit dans le hadith, rubba dirham in ghalaba alfa dinar. Le prophète a dit, il y a des fois un dirham que tu vas donner et qui sera mieux récompensé que 1000 dinars. Alors là, je parle de dirham argent, mieux que 1000 dinars. Dinars, donc c'était la monnaie en or, hein, qui est une monnaie fabriquée en or et qui vaut 100 fois la valeur du dirham. C'est un petit peu comme on dit, le dirham c'est le centime et le dinar c'est l'euro. Donc tout simplement parce que une personne quand elle va faire un don comme a fait Abou Bakr Sadiq, il a donné tout ce qu'il avait, il donne tout ce qu'il a, et que ce qu'il a donné est inférieur à ce qu'une autre personne va donner, mais que relativement à ce qu'il possède, c'est une infime partie de ce qu'il possède. Forcément, la récompense de celui qui a fait ce plus gros sacrifice par rapport à ce qu'il possédait, eh bien, est mieux récompensée que celui qui a fait don d'une somme plus importante, mais qui est relativement beaucoup moins importante par rapport à ce qu'il possède. Bon, j'espère qu'on m'a compris. En gros, que tout est relatif dans la vie, et que finalement...
Tout est relatif, il faut toujours relativiser.
Si je donne 100% de ce que j'ai, en gros, c'est mieux que de donner 10% de ce que j'ai, mais même si ces 10% sont supérieurs aux 100% de l'autre personne, ce qui est important, c'est la notion du sacrifice et de l'effort accompli par la personne qui le fait, quand elle sait que derrière, il ne lui restera plus rien. C'est bien sûr plus apprécié de Dieu, et parce que cette personne, Dieu se dit, cette personne, si elle accepte de donner tout ce qu'elle a, c'est que vraiment, elle s'en est remis à moi. Elle pense que je suis moi le seul Razzaq, qui est celui qui peut donner les biens et enrichir, et lui permettre de finalement de subvenir à ses besoins. Malgré cette offrande, cet immense sacrifice qu'il a pu accomplir.
Alors, vous pourrez poser vos questions en direct à l'imam Abdel Ali Mamoun dans un instant au standard de l'islam au présent. Je vous rappelle le numéro, c'est le 01 53 48 3000 hein, sur tous les sujets. 01 53 48 3000. Et puis, on a une question d'auditrice, imam Abdel Ali, qui est arrivée. Une question d'auditrice qui concerne son couple. Tout et donc, voilà, c'est une femme qui a été répudiée et qui maintenant se pose une question sur son statut. 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser à l'imam Abdel Ali Mamoun.
L'islam au présent revient dans un instant.